Rebonjour tout le monde, Christiane Campagna avec vous pour cette édition du 28 septembre de l'émission Accès libre. Et avec nous maintenant, François Beauregard. Bonjour François.
Bonjour Christiane, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Et toi, ça va?
Oui, ça va comme ça va dans les temps qui courent.
Oui, bien sûr.
On fait comme si de rien n'était. Voilà.
On se console avec ce qu'on peut, hein, comme le beau temps qu'il y a fait en fin de semaine.
Tout à fait, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Et là, aujourd'hui, je trouve ça vraiment intriguant, les personnes dont tu as choisi de nous parler. On parle d'explorateurs au 19e siècle.
Oui, exact. James Ullman et Jacques Arago sont deux Européens. Évidemment, un Britannique, en fait, plus exactement un Écossais. Et un autre Français, Arago. Les deux viennent du 19e siècle. Les deux ont été des explorateurs dans le temps où, évidemment, les puissances coloniales européennes étaient curieuses de dresser la cartographie du monde. Mais ce qui est un peu particulier dans le cas de James Ullman, c'est qu'il a d'abord fait presque tous ses voyages complètement aveugles. Et dans le cas de Jacques Arago, c'est qu'il a raconté ses voyages après qu'il ait perdu la vue. Mais dans un cas comme dans l'autre, on parle de gens qui ont fait le tour du monde. James Ullman est né voyant. Et il est officier de marine et à 24 ans, il contracte une fièvre tropicale. On sait qu'il y a des maladies tropicales qui provoquent la cécité, comme la fièvre des rivières, par exemple. Et quoi qu'il en soit, il devient complètement aveugle. Il est déclaré invalide, on lui accorde une pension, il y a même un poste au château de Windsor. Mais là, il ne peut pas souffrir de faire ça. Il a 26 ans maintenant. Et là, il dit non, c'est pas vrai, ma vie ne s'arrête pas ici. Il obtient la permission d'aller étudier la médecine et la littérature à Édimbourg. Et par la suite, il va commencer à voyager. De 1819 à 1821, il entreprend de faire le tour de l'Europe de l'Ouest. Par la suite, il va traverser la Russie pour aller jusqu'à la frontière mongole. Et ça, il fait ça complètement aveugle, encore une fois.
Est-ce qu'il dirigeait ces expéditions-là ou il se joignait à des expéditions?
Ben, il se joignait à d'autres. Évidemment, okay. Parfois, il avait besoin d'avoir des compagnons pour éviter de manquer le quai et tomber sur les rails de chemin de fer. Mais essentiellement, c'était à son initiative que ces voyages-là avaient lieu. C'était son idée, c'était lui qui voulait partir. Il ne se collait pas à d'autres. Et il a entrepris de faire le tour du monde de 1827 à 1832. Il va faire... il a été le plus grand voyageur, aveugle ou voyant, avant la venue des moyens de transport modernes. Alors que ce soit en voilier, en bateau à vapeur... Il a trouvé moyen de faire les cinq continents. Il est revenu et il a publié en 1836 un énorme quatre volumes de ses périples avec des observations sur les peuples qu'il avait rencontrés et surtout des observations à titre de botaniste. Alors, il était capable de reconnaître des plantes là, à l'odeur ou toucher, ainsi de suite, et en faire des descriptions. Tant et si bien qu'il est devenu membre, il était admis membre à la Société royale, qui est la société scientifique britannique qui existe encore aujourd'hui, là, mais qui était la sommité au 19e siècle. Et il est considéré comme un des plus grands explorateurs de l'histoire, point. Après ça, on peut ajouter, il a tout fait ça en étant aveugle, ce qui là est vraiment remarquable, surtout à une époque où il n'y avait pas quelqu'un pour vous prendre le bras à l'aéroport, là. Hein, on ne parle pas de ça du tout.
On parle même pas non plus d'une époque où ça allait de soi là, qu'une personne continue à être active.
Oui, exact. C'était plutôt un moment où si on était en situation d'handicap, on restait à la maison, là, puis on essayait de pas briser les potiches. Tant et si bien hein, qu'après son décès en 1857, il y a des gens qui ont commencé à mettre en doute la véracité de ces...
ses observations.
De ses récits, ses observations, mais ça n'a jamais été prouvé autrement et il a effectivement bel et bien fait le tour du monde et trouvé le temps de faire des observations, de prendre des notes et de tout réécrire ça et de faire un livre. Le Français Jacques-Étienne Victor Arago, c'est un peu la même histoire, mais un peu décalé. Arago était voyant et il a fait le tour du monde pendant qu'il était voyant, à titre de dessinateur, parce qu'à ce moment-là, la France avait affrété un navire en 1817 qui s'appelait l'Uranie, avec la mission scientifique de parcourir le monde et de dresser un inventaire de ce qui existait sur la planète. Alors, lui était attaché à cette expédition scientifique. Il a fait le tour du monde à bord de l'Uranie. Il a titre de dessinateur. Alors, il était très, très doué pour ça. Et c'est à son retour, même chose, une maladie tropicale, c'est à son retour qu'il a perdu la vue. Mais c'est à ce moment-là qu'il a aussi commencé à écrire et il a continué de voyager. Alors, après avoir perdu la vue, il a continué de voyager partout en Europe, tout le bassin méditerranéen, et est devenu un auteur dramatique prolifique. A écrit plus d'une vingtaine de pièces, plus d'une vingtaine de livres en plus, où il faisait le récit de ses voyages.
Donc, il a remplacé le dessin par l'écriture.
Par l'écriture et utilisant son excellente mémoire, était capable de décrire les lieux, les impressions qu'il avait, mais il a continué de voyager, même après avoir perdu la vue. Il a continué à parcourir l'Europe et d'écrire des livres sur ses périples dans le bassin méditerranéen, en Italie, ainsi de suite. Et il a écrit plein de pièces de vaudeville là, ou de théâtre bourgeois du 19e siècle. Et tout ça en étant aveugle. Voilà. Alors,
donc, un homme d'une grande polyvalence, de nombreux talents.
Voilà, polyvalent, lettré. Et les deux ont ça en commun. Ce n'est pas la perte de la vie qui les a arrêtés de faire ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Là.
Autrement
l'un
dit,
comme l'autre, ont sauté.
Quand on est quelqu'un qui a la bougeotte,
oui.
C'est pas un handicap visuel qui va nous arrêter.
Non, exactement. Et eux l'ont fait dans des conditions bien plus difficiles que celles que nous rencontrons nous-mêmes aujourd'hui.
Oui, pour tout un chacun, ce genre de voyage-là était déjà risqué à l'époque.
Oui, tout à fait. Là, c'est pas tout le monde qui voulait se taper 3-4 mois de voyage pour aller en Orient. Là. Et encore moins si on n'y voyait pas. Alors, c'était à la fois des barrières logistiques et des barrières de société là, qu'ils ont franchies à cette époque-là. Alors, voilà, deux explorateurs qui sont restés dans l'histoire, malgré, et c'est presque dans les deux cas, rendu une note en bas de page de dire, ils étaient aussi aveugles.
Oui, tout à fait.
Voilà.
C'est ce qu'on souhaite, en fait, que ce soit comme ça la plupart du temps.
Exactement.
Merci beaucoup, François, d'avoir déniché pour nous ces personnages dont on n'entend pas assez souvent parler. Et qui nous montrent que l'esprit d'aventure chez une personne ayant un handicap visuel, ça ne date pas d'hier. On se reparle bientôt, François.
Merci, tout
est possible. Merci infiniment.
Bye-bye.